de voir le point de vue de la naissance de l'angoisse. Et comme on voit la naissance de l'admiration, c'est intéressant de voir la naissance de l'angoisse. Parce qu'au fond, nous ne naissons pas angoissés. On devient angoissé. Ça, c'est bien évident. Je ne peux pas définir l'être humain par l'angoisse. Mais je reconnais qu'il peut y avoir des climats qui permettent l'angoisse, comme il y a des climats qui permettent l'admiration. Ça, c'est sûr. Le climat grec permettait beaucoup plus l'admiration. Du moins, c'est ce qui nous est resté. Hein. Qu'est-ce qui existe? Il y avait aussi de l'angoisse dans le climat grec. La Moira, ça donnait pas trop mal d'angoisse. Hein. Mais sous l'étoile néfaste, il n'y a plus moyen de vous rattraper. Alors à ce moment-là, ça nous fait l'angoisse. Il y avait l'angoisse qui existait chez les Grecs. Mais ce qui est très curieux, c'est que c'est de fait l'admiration qui a été retenue par les philosophes et l'angoisse est restée dans le théâtre. Alors, ce qui est curieux dans notre monde moderne, c'est que l'angoisse a gagné le monde philosophique. Et je ne dis pas que l'admiration a gagné le monde du théâtre. Le théâtre, par nature, est plus angoissant et angoissé que admiratif. Très curieux. Le climat de l'angoisse, ordinairement, favorise davantage le point de vue du théâtre et du point de vue de l'art que le point de vue. Et alors, le point de vue admiratif, et plutôt du côté de l'intelligence et du côté de la contemplation. Mais alors, quand l'angoisse gagne la philosophie, il demeure dans l'art et tout l'homme est angoissé. Parce qu'il n'y a pas le contrepoids philosophique. Je crois que c'est ça qui existait dans la Grèce. C'est qu'il y avait un contrepoids réaliste philosophique qui permettait de lutter contre l'angoisse poétique. Le poète est toujours un peu angoissé. Je crois. Alors ne dites pas que tout être angoissé est poétique, hein, c'est mais dites que le poète est toujours un peu angoissé. Tandis que le philosophe ne devrait pas l'être en tant que philosophe. Pourquoi? Parce qu'il cultive la vie de l'intelligence. Et le développement de l'intelligence nous aide à ne pas être angoissé. Ça, alors, c'est bien évident. Dialogue avec des psychanalystes à Paris, je les mettais en boule toujours en disant « J'ignore ce que c'est que l'angoisse. » Je me considérais comme un être complètement. J'ignore ce que c'est que l'angoisse. Je faisais exprès. Peut-être que ça me mettait dans un état que là, j'avais aucune prise. Il n'y avait aucune prise sur moi. La prise qu'ils avaient sur moi, c'est dans la mesure où j'étais angoissé. Et j'avouais que j'étais angoissé. Alors quand je disais que je n'étais pas angoissé, aucune prise. Alors je dis, vous êtes un être purement cérébral, j'ai poli, pas cérébral. Puisque je n'ai aucune peur de vous, c'est vous qui êtes des êtres cérébralisés. Parce que vous vivez dans des idéologies. C'était très amusant de temps en temps. Mais ça, c'est très intéressant de voir le climat de l'angoisse. Les psychanalystes vivent dans un climat d'angoisse. Et ils en ont besoin pour avoir une clientèle. Parce que s'ils n'avaient pas ce climat d'angoisse, ils n'auraient plus de clientèle. Ils ne sont pas les seuls à vivre dans ce climat d'angoisse. Les artistes vivent dans un climat d'angoisse. Ça, c'est sûr. C'est les artistes constamment. Ils en ont presque besoin. Pas trop, il faut que ce soit dosé. Parce qu'autrement, il n'y a plus d'inspiration, que rien du tout. Alors, comment naît l'angoisse? Ça, c'est une question philosophique qui m'intéresse beaucoup. Comment naît l'angoisse? L'admiration naît à partir de cette intuition à l'intérieur même du jugement d'existence. Alors, je me demande si l'angoisse ne naît pas à partir de la perte de cette intuition. Vous voyez, de cette intuition, où je ne suis plus en face que de quelque chose que j'ignore. Je crois que l'angoisse naît dans la mesure où il y a diminution de la vie de l'intelligence. Une intelligence qui ne vit plus laisse toute la place à l'angoisse. ne sais pas si je m'explique bien, c'est difficile à expliquer cette chose-là. Oui, on pourrait dire que l'angoisse, c'est l'oubli de l'expérience, d'une certaine manière. C'est l'oubli, et peut-être serait plus juste de dire, c'est l'oubli de l'intuition qui porte sur le jugement d'existence. C'est l'oubli, cela. Et donc, c'est l'oubli de cet éveil premier de l'intelligence. Un climat cérébral d'idéologie augmente l'angoisse. Parce que ce n'est plus l'intelligence dans ce qu'elle a de foncier qui rejoint le réel. Les idées ne luttent pas contre l'angoisse. Le jugement d'existence lutte contre l'angoisse. Parce que je m'accroche au réel. Je m'accroche au roc. Tandis que les idées, c'est le sable mouvant. Alors je peux m'enliser. Et l'angoisse augmente d'être enlisé. On est toujours enlisé quand on est angoissé. Et on ne sait pas comment en sortir. Il peut y avoir des schèmes d'angoisse. Et donc il y a des idées dans l'angoisse. Il y a des schèmes. On n'est pas angoissé tous de la même manière. Ça serait très intéressant de voir les chaînes différentes d'angoisse. Parce qu'il y a des chaînes. Exactement comme dans les cauchemars. Les cauchemars, c'est une angoisse vécue au niveau du rêve. C'est une angoisse, le cauchemar. Soudainement, vous vous réveillez. Alors, vous avez des chaînes d'angoisse au niveau proprement de ce que représentent les cauchemars. Et là, vous avez aussi des schèmes d'angoissés. On n'est pas tous angoissés de la même manière. Et je crois que c'est la diversité des angoisses provient de la diversité des idées. Des idées de la cérébralisation. Et donc, qu'est-ce que l'angoisse va naître à partir du moment où le jugement d'existence tend à disparaître pour qu'il n'y ait plus que des idées dans l'ordre imaginaire. Et alors, ces idées dans l'ordre imaginaire qui apportent de l'eau à l'affectivité, de l'eau au moulin de l'affectivité de l'angoisse. Et alors, ça apporte cette espèce de possibilité d'être toujours plus, d'aller toujours plus loin. C'est pour ça que la cérébralisation cultive l'angoisse et permet à l'angoisse d'être de plus en plus forte. Tandis que le jugement d'existence me fait sortir de l'angoisse. Alors, on pourrait dire, vous voyez que, dans le jugement d'existence, si je regarde l'autre, l'exister, l'autre, dans toute sa force, ça me donne une possibilité de sortir des idées et de rejoindre le roc. Dans la mesure, au contraire, que je m'enferme dans mes idéologies, j'augmente l'angoisse. Alors, on me posait cette petite question, si je crois qu'il faut la poser ici. Quand il n'y a pas de climat affectif, donc le climat de l'admiration. Il y a toujours un climat affectif. Il y a un climat affectif positif et négatif. Le climat affectif de l'admiration est positif. Le climat affectif de l'angoisse est négatif. Bon, qu'il y a un partage des eaux en chacun d'entre nous, c'est évident. Mais on peut avoir beaucoup plus que le climat. Normalement, le climat contemplatif apporte un climat d'admiration. Et donc un climat positif affectif qui permet à l'intelligence de s'éveiller. Tandis que dans certains climats d'angoisse négative, alors à ce moment-là, c'est évident que ce n'est pas commun de l'éveil de l'intelligence. Donc, quand il n'y a pas de climat affectif positif, et un climat affectif négatif seulement, l'intelligence réaliste ne peut pas naître. C'est très vrai. Dans l'angoisse, c'est impossible. Alors, le conditionnement psychologique est premier. C'est très vrai que quand je suis dans l'angoisse, ce conditionnement psychologique me ligote entièrement et je n'arrive plus à en sortir. Ça, c'est sûr. Alors, comment faire pour en sortir? Comment faire pour sortir de ces petites angoisses? Alors, je crois que là, c'est toujours le point de vue de la présence d'un autre qui m'aide au point de vue affectif. Et dès qu'il y a cette présence de l'autre, il y a donc un élément positif, et on doit lutter contre l'aspect négatif affectif par un élément positif. Et c'est cet élément positif qui me sauve et qui me permet de retrouver le jugement d'existence. La présence. Moi, c'est toujours ce qui m'a semblé. Les êtres qui sont angoissés, si vous êtes vous-même agité, vous augmentez leur angoisse. Ils ont besoin d'une présence qui soit un roc. Une présence qui ne bouge pas. Vous voyez ? Une présence qui est affirmative, au sens le plus fort. Et alors cette présence affirmative profonde, petit à petit, leur permet de rejoindre l'autre affectivement. Et quand ils rejoignent l'autre affectivement, ils peuvent le rejoindre positivement par le point de vue de l'intelligence. Évidemment, quand vous êtes en face, l'angoisse au sens strict demande une thérapeutique. Ne réclame pas une philosophie. Ça, c'est que la philosophie est devenue très maladive pour dire que c'est l'angoisse qui va me permettre d'être philosophe. Ah, c'est le côté morbide de la philosophie heideggerienne. Ça, il faut le reconnaître. C'est le côté morbide. Parce que je vous ai déjà dit, j'ai vu des jeunes étudiants qui avaient commencé leur philosophie par Heidegger, et comme il fallait être angoissé, ils voulaient entrer dans l'angoisse pour devenir philosophe. Et ils sont entrés dans l'angoisse pour devenir philosophe, et alors à ce moment-là, il n'y a plus rien du tout. Alors, heureusement qu'il y avait une présence et que les connaissants pouvaient les aider, et pendant le temps de la présence, à faire comprendre que cette angoisse n'aboutissait à rien. L'angoisse n'éveille pas l'intelligence. Mon intelligence n'est jamais éveillée. L'angoisse éveille en moi du tragique, mais pas l'intelligence. Alors, mais je ne crois pas que l'angoisse aide au point de vue de l'inspiration. Mais quand il y a un certain dosage positif et négatif, il peut y avoir une inspiration. Alors il peut y avoir des inspirations négatives. Vous voyez, Baudelaire. Il y a des inspirations négatives, on peut avoir un sens de la beauté tragique. On peut avoir un sens, si vous voulez, de quelque chose qui nous fait peur, qui nous angoisse. Alors il peut y avoir une certaine inspiration à l'intérieur de l'angoisse. Si l'angoisse n'est pas totale, c'est toujours très dangereux. C'est toujours très dangereux de cultiver l'angoisse. On doit au contraire faire l'inverse. Alors voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a jamais un climat totalement négatif. Jamais. Et donc il y a toujours possibilité d'en sortir. Toujours possibilité d'en sortir. Je crois que c'est toujours possibilité d'en sortir. Pourquoi ? Parce que la nature, qui est fondamentale, n'est pas atteinte dans le pouvoir de l'intelligence et le pouvoir de la volonté. Qu'est-ce qui est atteint ? C'est notre conditionnement. Notre conditionnement imaginatif. Alors lui, peut être très atteint, mais pas notre appétit fondamental. Vous voyez, et c'est ça qu'oublient trop les psychanalystes. Ils oublient trop qu'il y a une nature qui, elle, peut toujours reprendre le dessus. Parce que, de fait, le point de vue de l'angoisse, c'est un conditionnement. On n'est pas naturellement angoissé. C'est pour ça que je disais, l'enfant dans son berceau n'est pas angoissé. Même si sa mère est angoissée. Mais sa mère angoissée va mettre un tout petit peu d'angoisse dans l'enfant progressivement. Parce qu'un enfant est très sensible au climat dans lequel il est. Alors, si la mère est angoissée, l'enfant sera progressivement lui-même angoissé. Alors ça va se traduire par des cauchemars, ça va se traduire par des tas de choses comme ça. Vous voyez ? Ça va se traduire par une espèce d'inquiétude, par une espèce d'impossibilité d'être paisible. C'est vrai que c'est ordinairement c'est comme ça que se traduit en premier l'angoisse. Tant que nous dormons bien, il n'y a pas de danger. La nature se rattrape par le sommeil. C'est ça qui est merveilleux. Le repos, c'est la nature qui se rattrape. Alors, tant que on dort bien, il n'y a pas grand danger. Quand on commence à ne plus dormir, ah, ça commence à dire attention. Attention, je crois que ça c'est très significatif. Ça. Dormir, manger. L'appétit. Et alors, faisons attention, parce que c'est vraiment le point de vue. Et je crois que le sommeil est encore beaucoup plus indicatif que le point de vue. Parce que le sommeil est plus proche de la nature que le fait de se nourrir. Ce qu'il y a de plus proche de la vie, c'est le sommeil. Ça ne veut pas dire que la vie, c'est d'abord le sommeil, mais ce qu'il y a de plus proche, ce qu'il y a de plus fondamental dans la vie biologique, c'est le sommeil. Alors ça, c'est la nature qui, là, reprend ses droits. Et tant que la nature reprend ses droits régulièrement, alors à ce moment-là, il n'y a pas de danger, le conditionnement reste le conditionnement. Mais quand le conditionnement arrive à tout prendre, alors on est entièrement dans le cocon. Notre nature est entièrement conditionnée par le point de vue imaginaire. Alors à ce moment-là, il faut faire des brèches. Je crois que c'est comme ça, il faut faire des brèches. Quand on ne connaît pas du tout l'individu, c'est pas commode du tout. Et quand on le connaît, on sait qu'il y a des points sensibles sur lesquels la nature peut se réveiller. Et là, par la présence. Je crois que c'est le seul moyen. Alors, continuons. Une fois qu'on a vu le point de vue de l'admiration et le point de vue de l'angoisse, nous comprenons comment l'intelligence interroge. L'interrogation ne naît pas de l'angoisse, elle naît de l'admiration. Alors, on comprend que s'il y a eu cette intuition de l'unité de la diversité de l'être, comment l'interrogation qui va naître immédiatement cette admiration, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, nous avions déjà vu comment cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'était tout simplement un aspect de thématisation de l'être, de ce qui est. Qu'est-ce l'être ? Ça naît à l'intérieur de l'admiration. Une intelligence qui interroge, hein, c'est une intelligence en appétit de son bien. Une intelligence en appétit de son bien. C'est donc une intelligence qui est toujours dans un état de pauvreté. C'est donc une intelligence qui est fragile. Celui qui est interrogé est dans un état de fragilité. C'est pour ça qu'il a besoin de cette compensation affective. Je ne peux interroger que dans un climat d'admiration. Si je n'ai pas ce climat affectif et que je suis angoissé, mon intelligence n'interrogera jamais. Parce que la fragilité d'un être ne peut se manifester que dans un climat affectif. Que dans un climat affectif positif. Dans le point de vue de l'admiration. C'est quand vous êtes en admiration vis-à-vis de quelqu'un que vous pouvez plus facilement ouvrir votre cœur. Quand il n'y a pas cette admiration vis-à-vis de la personne que vous êtes en face, vous n'ouvrirez pas votre cœur. Vous serez devant un examinateur. Alors, on n'admire pas un examinateur, puisqu'on est examiné. Alors, on n'admire pas. On a plutôt, au contraire, peur. C'est pour ça que normalement, on n'interroge pas, on répond. Devant un examinateur, on répond. Tandis que devant quelqu'un qui vous aime, et devant quelqu'un que vous êtes en admiration, vous ouvrez plus facilement votre cœur. Devant quelqu'un auquel vous êtes en admiration du côté de l'intelligence, vous pouvez ouvrir votre intelligence. Devant quelqu'un que vous êtes en admiration vis-à-vis de sa personne, vous pouvez ouvrir votre cœur. Le climat de l'admiration permet l'interrogation. Et l'interrogation, c'est notre intelligence qui s'ouvre. Il y a l'ouverture du cœur et il y a l'ouverture de l'intelligence. L'ouverture du cœur se fait dans un climat d'admiration et de confiance, et l'ouverture de l'intelligence se fait dans un climat d'admiration. Pas de confiance, là, on n'a pas besoin. C'est un propre de l'intelligence. C'est pour ça que ça se fait du côté du cœur, c'est plus lent que du côté de l'intelligence. Parce qu'il faut l'admiration et la confiance. Tandis que du côté de l'intelligence, il faut l'admiration. La confiance, elle est, puisque c'est la réalité. J'ai confiance dans la réalité. J'ai confiance dans ce qui a suscité en moi cette admiration. Il n'y a pas besoin de confiance. L'intelligence interroge. Parce que le cœur a besoin du dialogue. L'intelligence, c'est le monologue. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de confiance. J'interroge par rapport à la réalité. Et je veux connaître ce que c'est que cette réalité. Alors c'est dans ce climat d'admiration que l'interrogation peut se faire, où je reconnais que mon intelligence ne sait pas. Donc je reconnais la fragilité de mon intelligence. Celui qui ne sait pas, eh bien il est fragile. Il est fragile parce qu'il est dans un état de potentialité. Il est dans un état de celui qui avoue qu'il doit progresser, qu'il doit s'appuyer sur un autre. C'est pour ça qu'encore une fois, je n'interroge pas quand je suis dans un climat d'angoisse. Il faut une affectivité très forte, positive, pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence s'ouvre par l'interrogation, puisque l'intelligence par l'interrogation devient accueillante. La béance de l'intelligence. L'intelligence devient accueillante. Elle s'ouvre au réel. En l'interrogeant, elle s'ouvre au réel. Ce n'est pas un état extatique de l'intelligence. Il n'y a pas d'extase de l'intelligence sur la Terre, mais il y a des interrogations. La seule extase que nous connaîtrons, c'est dans la vision béatifique, et que ce ne sera plus une interrogation. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Mais c'est intéressant de voir la différence entre l'extase et l'interrogation. Vous voyez ? Parce que ça nous aiderait à comprendre ce que c'est que l'interrogation. L'interrogation n'est pas un état extatique. Pourquoi ? Parce que l'état extatique, c'est de me porter vers l'autre et d'être attiré par l'autre. Dans l'interrogation, je suis accueillant vis-à-vis de l'autre. Et je veux savoir ce qu'est l'autre. Je me porte vers lui, mais je ne me porte vers lui uniquement pour l'accueillir. C'est mon intelligence qui s'ouvre à la connaissance de l'autre, pour savoir ce qu'il est, parce que c'est mon bien. Alors je m'ouvre à lui, parce que c'est mon bien. Donc c'est l'état de faiblesse de l'intelligence, donc d'imperfection de l'intelligence, qui interroge. Et quand elle interroge sur l'être, elle interroge sur ce qu'il y a de bien fondamental à l'intelligence. C'est pour ça qu'une intelligence qui interroge sur l'être en disant qu'est-ce que c'est que l'être, c'est une intelligence qui se désarme radicalement. C'est-à-dire que c'est si beau l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Parce que l'être, c'est le bien fondamental de l'intelligence. Et quand je reconnais que je ne connais pas ce bien fondamental de l'intelligence, je me désarme entièrement. Et c'est en ce sens-là que cette interrogation est si difficile à faire. Je ne dis pas si pénible, mais je dis si difficile à faire. Parce qu'il faut reconnaître la pauvreté radicale de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce l'être ? Tout ce que j'ai avant, toutes les déterminations et toutes les richesses que j'ai avant, j'accepte de m'en dépouiller complètement. C'est l'intelligence dans un état de novice. De novice, elle se met dans un état de novice. La novice, hein, ou le novice, c'est celui qui accepte de ne rien connaître. Dès que vous croyez que vous connaissez quelque chose, vous n'êtes plus novice. Tandis que novice, c'est ça, être novice du Saint-Esprit, c'est être toujours sous la conduite de l'Esprit-Saint. Et accepter d'être conduit par l'Esprit-Saint là où il le veut. Comme il le veut. Eh bien, il y a un état de novice de l'intelligence, c'est très beau du reste, c'est l'intelligence qui interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'intelligence, à ce moment-là, va dépasser tout l'aspect des catégories. Alors ça, c'est intéressant de bien comprendre comment l'intelligence, en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être, dépasse toutes les catégories. J'aurais dû pouvoir ça parce que j'insiste sur cette interrogation qu'est-ce que c'est que l'être. Parce que c'est proprement cette interrogation qui va me permettre de découvrir la substance. Hein. Alors, si je ne vois pas bien ce que c'est que cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, je n'arriverai jamais à découvrir ce que c'est que la substance. Donc, c'est très important d'être
très attentif à cette interrogation. Qu'est-ce l'air ? Eh bien, quand j'interroge qu'est-ce l'air, je me mets dans un état de pauvreté, dans un état de dépouillement, pour comprendre que tout ce qui est mon avoir intellectuel, ce n'est rien. Alors, quel est mon avoir intellectuel ? Mon avoir intellectuel, c'est les catégories. Ça, c'est mon avoir intellectuel.
Alors évidemment, c'est un avoir qui peut être très très différent, pas ? Parce que les catégories, vous savez, elles sont 10. Je n'ai pas besoin de faire un cours sur les catégories, vous les connaissez bien. Mais c'est très important de comprendre que c'est mon avoir intellectuel. Et que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» veut torpiller cet avoir pour me mettre au-delà de cet avoir. Ce que je ne fais pas habituellement dans la vie courante. Dans la vie courante, je me sers des catégories. Les catégories substance, on va y revenir, parce que c'est la catégorie la plus difficile à dépasser. La catégorie substance, la catégorie quantité, ça j'arrive assez facilement à la dépasser. La catégorie qualité, c'est plus difficile à dépasser. La catégorie, ainsi de suite, relation, les dix. C'est toujours les avoirs, ça. Pourquoi ? Parce que ça correspond à ma manière de saisir la réalité dans ses déterminations immédiates. La réalité qui se présente à moi se présente tout de suite à moi selon ses déterminations immédiates. Il y a une détermination fondamentale qui est la détermination que cette réalité est un homme. Cette réalité est un animal. Cette réalité existante, hein, que j'ai expérimentée, elle est homme-animal. Cette réalité, elle est telle réalité. C'est ça qu'elle est un homme. Et donc, quand j'ai dit telle réalité, c'est ce que j'ai expérimenté. Et c'est l'au-delà de cette réalité telle que j'expérimente, parce que c'est l'au-delà du ceci. Le ceci, c'est justement telle réalité, ce qu'Aristote appelle un todéti. Le ceci. Dans l'interrogation, je me suis mis à interroger l'être en dépassant le ceci. C'est pas ceci qui m'intéresse. C'est pas cette table qui m'intéresse. C'est pas ce chien qui m'intéresse. C'est pas moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire j'existe. C'est l'exister du moi. C'est l'exister du chien. C'est l'exister de la table. C'est ça qui a suscité en moi l'admiration. C'est pas la table, c'est pas moi, je me connais trop bien. C'est pas le chien, c'est pas ça qui a suscité l'admiration. Ce qui a suscité l'admiration, c'est l'exister. Or, l'exister apparaît comme un dépassement du ceci. Un dépassement de la signification du ceci. Un dépassement de la quantité contenue dans le ceci. Un dépassement de la qualité, un dépassement des relations, tout ce qui est immédiatement saisi dans la réalité. Ça, c'est très important à saisir. Parce que c'est ça qui fait comprendre la puissance et la force de cette interrogation et combien cette interrogation est dépouillante. C'est important de comprendre combien la métaphysique appauvrit. Elle est dépouillante. Parce que d'habitude, nous vivons avec nos catégories. C'est en ce sens-là que nous nous heurtons les uns à côté des autres. Parce que instinctivement, nous avons la catégorie qualité et l'autre la catégorie quantité. Alors ça, pot de fer, pot de terre. Hein, on se choque.
Quelqu'un ne voit que sous l'aspect qualité. Quelqu'un ne voit que sous l'aspect quantité. C'est vrai, c'est là, les mentalités sont les plus nettes, c'est par rapport à là. Il y a des gens qui tout de suite mesurent en nombre. Vous avez fait tant de choses. Mais regardez comme c'est beau. Qualité. C'est très curieux. Puis d'autres, c'est la relation. Ils nous vivent à ce niveau-là. Ça, c'est notre avoir. Notre avoir est là. Notre avoir psychologique est marqué par les catégories. Nous avons une mentalité quantitative, nous avons une mentalité qualitative, nous avons une mentalité de relation, nous avons une mentalité d'action et de passion, nous avons une mentalité liée dans le temps, liée dans le lieu, et ainsi de suite. C'est très très curieux. Nous avons une mentalité de l'exercice, de l'efficacité. Donc c'est notre avoir. Notre avoir, il est lié aux catégories. Eh bien, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je me mets au-delà de tout cet avoir. Et je considère que cet avoir n'est rien. Je vends tout cet avoir pour découvrir la perle. Hein, vous voyez bien. La perle est quand même quelque chose d'infiniment plus intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Découvrir ça, découvrir cette perle. Il reste, c'est l'avoir. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Au-delà de toutes ces choses que je connais, qui sont intéressantes, ça ne veut pas dire du tout que ce n'est pas intéressant. Mais c'est de l'ordre, vous voyez, de l'avoir. C'est de l'ordre des choses que je possède, que je peux énumérer, dont je peux faire l'inventaire. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc je me mets au-delà de toutes ces déterminations. Et je vois que toutes ces déterminations n'ont d'intérêt que si elles existent. Donc c'est la condition sine qua non de tout l'intérêt de cet avoir. Si cet avoir porte uniquement sur des idées, et que ces idées n'existent pas, ne correspondent à rien, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est capital, ça, de saisir cet au-delà de toutes ces déterminations, de saisir ce quelque chose qui n'est pas une chose, c'est ça qui est extraordinaire, qui est aussi bien au-delà du sujet qu'au-delà de l'attribution homme. C'est au-delà du sujet, c'est pas le sujet, parce que le sujet reçoit ses attributions. Or, l'être est présent dans ses avoirs, donc l'être ne peut pas se ramener au sujet. J'aurais la tendance de faire ça, de ramener l'être au sujet. Non, l'être ne peut pas se ramener au sujet. Parce que si l'être se ramène au sujet, il se distingue de toutes les autres catégories. Ce sujet, Pierre, il est homme, mais il n'est pas l'intelligence, mais il n'est pas la volonté, mais il n'est pas telle ou telle qualité, il n'est pas son poids. Tout ça, c'est des choses qui s'ajoutent. Et donc, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque l'être est présent dans le poids de Pierre, l'être est présent dans ses qualités. Je ne peux pas identifier cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» avec le sujet. C'est donc un trans-sujet, un trans-qualité, un trans-quantité. Oui, l'être est au-delà. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout en étant dedans, puisque cette qualité est, puisque cette quantité existe. Donc l'être est au-delà, il est dedans, il est au-delà. Voilà l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, j'espère que ça vous le saisissez bien. C'est intéressant à bien saisir que l'intelligence va saisir là quelque chose de radical, de fondamental, qui est situé à l'intérieur de toutes ces catégories, mais qui, encore une fois, n'est pas ces catégories. C'est quelque chose de plus, radical. Alors vous allez me dire, ces catégories ne sont pas intéressantes. Ces catégories sont capitales, puisque c'est ce qui me permet toujours de dépasser mon avoir. Si je ne les avais pas, je ne pourrais pas comprendre le dépassement de l'avoir. Ça, c'est bien évident. Si je ne les avais pas.
Parce qu'alors je referai de l'être un avoir. Or l'être, je ne peux pas le posséder parce qu'il me possède. Je ne peux pas le posséder, l'être. C'est quelque chose qui est présent à tout et que l'intelligence regarde et se dit qu'est-ce que c'est que l'être. C'est très curieux cette aventure de l'intelligence, hein, au point de vue métaphysique, quand elle se pose la question. Alors, je vais tout de suite regarder ici une question posée tout à l'heure, parce que je crois que c'est maintenant qu'on doit la regarder avant d'entrer plus loin. Alors, ceci, c'est en référence avec le livre sur l'être. Il y a encore quelques minutes. Bon. Page 81. Vous dites, en milieu, parce que c'est, j'ai peut-être évolué plus, mais ça sera la possibilité de m'échapper. Bon. Quand l'esprit s'interroge loyalement sur ce qu'il est, sur sa qualité de vérité, sur sa nature profonde de son interrogation, il est nécessairement conduit à se poser le problème métaphysique s'il ne veut pas demeurer dans l'angoisse ou refuser de réfléchir en se jetant dans l'efficacité du faire. Que signifie s'interroger loyalement ? S'interroger véritablement, si vous voulez, ce serait peut-être mieux encore que loyalement. S'interroger véritablement, c'est-à-dire s'interroger jusque dans la racine. Aller jusqu'au bout de l'interrogation. Or, aller jusqu'au bout de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est ça l'interrogation loyale, fondamentale de ma vie intellectuelle. Je ne peux pas aller au-delà de cette interrogation. Cherchez bien. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne peux pas aller au-delà. Je vais au-delà de tous les avoirs. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que cette interrogation est au-delà de tous les avoirs. Et qu'elle est suscitée par cette admiration. Cette admiration face au jugement d'existence. Et que seul le jugement d'existence permet cela. Pourquoi est-il nécessairement conduit à la métaphysique ? Il est nécessairement conduit à la métaphysique parce que justement, quand l'intelligence s'interroge loyalement, elle doit aller jusqu'au bout de l'interrogation. Aller jusqu'au bout de l'interrogation, c'est l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc elle est nécessairement conduite à la métaphysique. Alors évidemment, elle peut très bien ne pas y répondre. Hein. Je peux me poser l'interrogation et rester indéfiniment dans l'interrogation. Mais c'est déjà quelque chose. Parce que l'interrogation me permet de sortir de l'angoisse. L'interrogation me prépare à recevoir la réponse. Quelle est la source du refus de l'angoisse et de l'activisme ? Est-ce par l'amour qui ne peut accepter d'en rester là ? Oui. La source du refus, oui, de refus de cette interrogation, parce que je pourrais encore refuser cette interrogation. C'est pas, je peux dire non. Cette interrogation est trop fondamentale, elle me met en cause ce que je suis. Donc elle me met en cause, elle est au-delà du moi. Donc elle me met en cause. Cette interrogation montre comment l'intelligence est capable de se replier sur elle-même et de regarder ce qu'il y a de fondamentalement en elle, puisque cette interrogation, c'est moi qui interroge. Et mon interrogation va plus loin que moi. Puisque c'est le sujet interrogeant et que l'interrogation dépasse le sujet interrogeant. C'est très très curieux. Mais c'est là où on voit que l'esprit est plus que l'homme. Exactement comme je vous le disais, l'amour est extatique et me fait comprendre qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que moi. Puisque je suis capable d'aimer quelqu'un et de me porter vers lui et d'être en extase. Si je suis capable d'être en extase et d'être dans une attitude extatique en aimant, ça prouve qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que moi. Évidemment, ce moi, ce quelque chose qui est plus grand que moi, est dans l'ordre, justement, incoatif. Alors que moi, je suis déterminé. C'est la même chose du côté de l'interrogation. L'interrogation et l'extase, vous voyez, tous les deux.
sont un dépassement. Un dépassement qui se fait dans la pauvreté, comme toujours. C'était dans la possession, il n'y avait pas de dépassement. Mais la pauvreté me permet le dépassement. Je peux aller plus loin que moi. C'est très très mystérieux ça. Je peux aller plus loin que moi. Vous voyez, c'est ce qu'elle avait très bien saisi d'une manière tout à fait différente. Feuerbach, quand il dit il y a quelque chose d'infini dans l'homme. S'il y a quelque chose d'infini dans l'homme, il est dans Dieu. Et moi je dirais il y a quelque chose d'infini dans l'homme par sa capacité d'interroger, sa capacité d'aimer. Il y a quelque chose d'infini. Et cet infini est peut-être le signe qu'il est l'image du Créateur. Donc, il faut comprendre que si je refuse cette interrogation, je demeure enfermé en moi, puisque je ne veux pas dépasser mon sujet. Je demeure donc enfermé en moi. Si je demeure enfermé en moi, je ne rejoins jamais l'autre. Et donc, il y a un refus du jugement d'existence. Et c'est ce refus de reconnaître l'autre qui m'angoisse. Alors, regardons bien cette interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être comme le dépassement de la voix? Alors, vous allez me dire, mais c'est un dépassement de la voix, ça va rester alors complètement en dehors, en quelque chose que je ne peux pas vérifier. Attention. Qu'est-ce que c'est que l'être me reconduit au jugement d'existence? Ceci est. Je reviens. Puisque c'est la réalité qui m'a fait poser ce jugement d'existence, c'est cette même réalité qui doit m'aider à en sortir. Mais je vous ai dit que là, il y a une très grande tentation. La très grande tentation, c'est de replier sur celui ou ceux qui posent l'interrogation. Sur l'intelligence qui interroge. C'est ça la très grande tentation. Non pas sur la réalité expérimentée, mais sur l'intelligence qui interroge, sur le nous interrogeant. Retourner sur le nous s'interrogeant, c'est biaiser avec l'interrogation. Et donc ce n'est pas répondre. Pourquoi? Parce que l'interrogation porte au-delà du moi sujet. Si je retourne sur mon moi sujet qui interroge, je ne peux pas répondre à mon interrogation. C'est en ce sens-là que je dis que je biaise avec mon interrogation. Et donc je ne suis pas loyal. Oui, c'est toujours la loyauté. Vis-à-vis de l'interrogation. Je ne suis pas loyal avec ma propre interrogation. Ça, il faut bien le voir. C'est intéressant parce que ça montre que toute position idéaliste est orgueilleuse. C'est un manque de loyauté avec mon interrogation. Or, l'interrogation m'est montré l'état de pauvreté de mon intelligence. Je n'ai pas le droit de ne pas répondre à un pauvre. Tout pauvre a le droit à la réponse. Alors, quand j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être? Je suis au-delà de toutes les catégories, de tout avoir. Je suis donc au-delà du sujet. Le sujet, moi interrogeant, moi connaissant, moi possédant. Je suis au-delà de ce sujet. Si donc je reviens uniquement à ce sujet, je ne réponds pas à l'interrogation. Je ne veux pas répondre à cette interrogation. Parce que j'ai peur. Alors je m'enferme en moi. Et je m'enferme dans mon avoir. Parce que s'enfermer en soi, c'est s'enfermer dans son avoir. Ce n'est pas accepter d'être délogé de soi pour essayer de comprendre ce que c'est que l'autre. Ce n'est pas accepter cet exode de l'intelligence. Je ne dis pas cette extase, cet exode de l'intelligence. Ce serait plus juste de dire exode, vous voyez. L'amour implique l'extase et l'intelligence implique l'exode. Alors là, c'est, vous avez quelque chose qui est tout à fait biblique. C'est l'intelligence implique l'exode. Sortir de soi, sortir de sa maison, sortir de ce qui est nous, pour aller vers l'être, en terre de Canaan. vers l'être, vers ce qui me dépasse, ce qui est au-delà de moi, puisqu'il réunit tout le monde. Tandis que moi, je ne réunis pas tout le monde. Je suis moi. Tandis que je ne réunis pas tout le monde. Tandis qu'au contraire, l'être réunit tout le monde. Donc, l'exode, je sors de ce qui n'est que naturel, de ce qui est tout entier en moi, pour aller vers l'être. Aller vers l'être. Vous voyez, ce très bel exode de l'intelligence. Pour rejoindre l'être, pour l'embrasser. Non, c'est pour le toucher, plus exactement. Parce que l'être ne se laisse jamais embrasser. Je peux le toucher, mais je ne peux pas l'embrasser. Parce que si je l'embrassais, vous comprenez, je le mettrais comme un avoir. C'est vrai, quand vous embrassez quelqu'un, je te possède, comme c'est admirable. N'est-ce pas ? Tu es à moi. Et puis, vous ajoutez, je suis à toi. Alors, c'est une mutuelle reconnaissance d'avoir. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est cet exode, ce dépassement par rapport à embrasser. Et donc, c'est toucher. Je peux toucher l'être, mais je ne peux pas l'embrasser. Parce que je peux le toucher comme ce qui est au-delà de ce que j'expérimente immédiatement, de ce que je possède immédiatement. C'est donc un au-delà. Alors, quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et que je suis loyal avec cette interrogation, je ne peux donc pas revenir au sujet. Je suis obligé de revenir à l'expérience, ceci. D'où provient mon interrogation ? Et ça, c'est très important, à bien saisir ce déclenchement de cette interrogation qui doit être loyale comme interrogation, et donc il doit aller jusqu'au bout de ses exigences. À ce moment-là, je reviens à la réalité, ceci est. Revenant à ceci est,